Bienvenue dans Certains l'aiment au chaud, l'émission qui a pris allemand LV2 pour pouvoir regarder la télé. Et des films à la télé. Salut Thierry.
Tu dis ça quand on n'a mis aucun film allemand dans la sélection, c'est génial.
C'est génial, mais il n'y a pas de film français non plus. Bravo. C'était la bonne période, tu vois, pour choisir des films. Salut Thierry.
Salut.
Et alors que Thierry tousse, comment va ta toux depuis la semaine dernière?
Toujours pas très bien, c'est pire.
Aïe aïe aïe. Bien, justement, pour te soigner, parce que après la junk food qu'on s'est tapé pendant 2 semaines, on va adoucir un peu, hein, on va passer quelque chose de plus doux pour tes yeux, pour ta gorge, et pour toi, pour ton petit cœur, pour te ménager.
Oh.
Après Netflix et Amazon qui t'ont massacré, hein, on monte le niveau avec Arte.
Quoi ? Non mais tu m'avais dit Salto ? Attends, j'ai passé une semaine sur ce truc alors que j'étais malade, alors que vous avez fait Arte ?
Je crois que ça n'existe pas encore Salto, Thierry.
Mais
Tu t'as fait l'intégrale de Joséphine Ange Gardien pour rien, Thierry, désolé.
Au bout du 120e épisode, ça devient à peu près intéressant.
Vous l'avez entendu, c'est notre Joséphine Ange Gardien à nous, c'est Ellie. Salut Ellie.
Salut.
Également, une autre fée, un autre ange gardien, Hera. Salut Hera.
Salut.
Notre capitaine Marlowe à nous, Yassa.
Allô.
Ça, c'est commissaire d'Eric, ça. C'est pas mal, c'est pas mal.
L'Allemagne.
Et pour monter le niveau avec nous, une invitée de marque, bon, une habituée maintenant aussi de la maison, Laura. Salut Laura.
Salut.
Bon, comment ça se passe ce confinement, Laura?
Bah écoute, ça va, hein. Là, je suis actuellement sur mon lit, donc tout va bien avec mon chat.
Ah, confinement avec le chat, donc tu n'es pas toute seule en confinement, tout va bien.
Non, c'est lui le maître en plus.
Ça va le reste de l'équipe, le confinement? Vous devenez pas dingue, c'est bon? Ou au contraire, c'est un prétexte pour voir encore plus de films?
C'est limite, là, on commence à frôler la folie quand même.
Non, ça va. Enfin, à part le fait que je suis malade depuis une semaine, mais ça va.
Tranquille aussi, hein, pas de problème.
Ça me dérange pas plus.
Très bien, c'est la 3e semaine de confinement au moment où on enregistre. On arrive à la fin de la semaine au moment où l'émission sort. Cette fois-ci, on parle d'Arte. Pourquoi Arte, mon cher Thierry? Tout simplement parce que c'est gratuit.
Certains aiment Radin.
Exactement. Certains aiment super Radin. Mais non, parce qu'on parle de plateforme avec des offres d'essai et tout ça, mais c'est vrai qu'on oublie très souvent qu'on a des films gratuits à portée de main. Et c'est payé par l'argent public, en plus, autant en profiter. Qui regarde Arte parmi vous?
Moi.
J'adore ça.
Moi.
Alors, est-ce que vous regardez Arte comme dans les sondages? C'est-à-dire que les gens disent qu'Arte est leur chaîne préférée, mais c'est quand même TF1 qui fait les meilleures audiences? Ou est-ce que vous regardez vraiment?
En fait, moi, je regarde pas trop la télé, donc du coup, je vais uniquement sur leur replay.
Le site a un replay.
Exactement la même.
Thierry, exactement la même pour toi?
Bah ouais, en plus, je regarde pas énormément non plus, hein, mais... J'ai pas la télé, donc ça joue déjà pas mal. Et les seules émissions potentiellement que je vais regarder en replay ou quoi que ce soit, c'est sur Arte.
Moi, je regarde pas mal Arte Concert.
Mmh, pareil.
C'est quand même génial en termes de catalogue musical. Sinon, Arte, c'est top pour les documentaires aussi. C'est un peu... Je les ai un peu délaissés pour TEDx récemment, quand même. Enfin, pour tous les TED Talks et tout. Mais il y a quand même des éléments super intéressants en docu. Et puis là, le fait de s'y reconnecter en regardant des films, ça m'a fait me rendre compte que si on a envie d'un bon film ancien, c'est quand même hyper adapté pour aller trouver des petits trésors auxquels on ne penserait pas naturellement.
Bah moi, c'est un peu pareil que tout le monde. Enfin, je regarde pas trop la télé, du coup, c'est plus du replay ou sur leur chaîne YouTube où ils mettent beaucoup de documentaires, pas mal de films aussi des fois. Et c'est le plus intéressant. Enfin, c'est ce qui m'intéresse le plus, donc c'est comme ça que je découvre les programmes.
Ouais, aussi pareil. Bon, c'est vrai que je regarde plus trop la télé. Enfin, je suis maintenant décalé par rapport aux horaires de la télé. Par contre, Arte, moi, je me regarde le week-end. J'aime bien me caler, tu sais, comme c'est l'après-midi. Quand je cherche un documentaire à me mettre l'après-midi pour me poser sur le canapé tranquille, je vais sur Arte. Et pour moi, c'est déjà un gage de qualité. Puis j'adore, il y a toujours un truc qui m'intéresse, de l'histoire, de la science ou autre. Bon, des fois, il y avait des trucs aussi. Il y avait un truc avec des chats. Il y avait des mecs qui avaient mis un traceur sur un chat pour voir... un peu leur trajet. Bon, voilà. C'est pas toujours de très très haut niveau, mais bon. Ouais.
Oui, mais c'est drôle.
Mais en tout cas, j'ai plus confiance dans les docs d'Arte que dans les docs de Netflix, par exemple, au hasard.
Oh, pourtant, Netflix, ils ont quelques docs sympas quand même. Faut pas tout. Faut pas
oui,
tout
mais
jeter.
Au milieu de combien de.
Ah,
de
ouais,
trucs
non, par
douteux.
Contre, ouais, il faut chercher, oui.
Mais faut dire qu'aussi, niveau documentaire, Arte, c'est un peu le taulier. Ça fait des années qu'ils font ça. Ils ont pas mal d'expérience et. Enfin, ils savent s'y prendre, quoi.
Exactement. Aujourd'hui, on ne va pas parler doc, même s'il y a des docs cinéma excellents. D'ailleurs, vous pouvez aller jeter un œil. Il y a des interviews, des analyses, des docs sur les auteurs, les acteurs et autres. Donc, pas mal de docs cinoches également, mais là on va parler directement films et films de patrimoine. Alors sur Arte en dispo, on n'aura peut-être pas des sorties très très récentes, mais on a des sorties, ma foi, très intéressantes. Au moment où on a fait la sélection de films, il y avait à peu près une trentaine de films disponibles et on a sélectionné ceux qui restaient le plus longtemps sur la plateforme, enfin ceux qui restaient assez longtemps après la publication du podcast. C'est pour ça qu'on a dû retirer des affiches qui nous faisaient très très plaisir, que bon, qui restaient pas assez longtemps parce qu'après il y a des questions de droit évidemment, mais il reste quand même du très bon sur la plateforme. On a choisi ce week-end, cette semaine, pour l'émission Bugsy Malone, Les Chaussons Rouges, Le Fantôme de l'Opéra et The Intruder. Pas de film français, pas de film allemand. Je regrette un peu, mais en même temps, c'est par rapport aux dates de dispo qu'on a choisi.
Après, on peut regarder la version allemande hein, si on a envie.
Ah oui, voilà. Après, on peut regarder la version allemande des films si on veut, hein, si on a très très envie. Non, il y avait du Melville en plus cette semaine, mais qui, au moment où l'épisode sort, le film était plus dispo. Donc bon, tant pis pour le second souffle. Enfin bon, bref. Commençons tout de suite avec du film de gangster, du Rififi chez les mômes. City slicker, he can charm you with a smile and a style all his own. Everybody loves that man, Bugsy Malone. Bugsy Malone, avec un titre français que Thierry adore.
Du Rififi pour les mômes.
Magnifique.
Quelqu'un a déjà compris ce que ça voulait dire, du Rififi, sérieusement.
C'est par rapport à un ancien film.
C'est un film de 50, ouais.
C'est ça.
Ouais. Et un Jules film Dassin, français, d'ailleurs. Qui est très, très bien. Ouais.
Ouais. Et c'est du Rififi pour qui, je sais plus qui. Enfin, pour.
En fait, il y a un film de base qui s'appelle Rififi, qui en français a un autre nom, je crois. C'est un mot qui a été beaucoup utilisé, mais c'est souvent dans les films de gangsters. C'est beaucoup lié à ça, cette idée d'un peu d'embrouille, de castagne, un petit peu. En fait, ça finit toujours mal, les histoires de gangsters.
C'est de l'argot parisien dans les films de gangsters.
Ouais, voilà, c'est ça.
Non, là, mais je me rappelle plus du nom du film de Dassin, mais en tout cas, moi, j'ai vu ça, là, dans le documentaire de Tavernier, Voyage à travers le cinéma français, où il en parle, en fait, et c'est là que j'ai fait « Ah, d'accord, bah, c'est pour ça qu'ils ont appelé Bugsy Malone comme ça, c'est aussi pour faire référence à ce film-là, et donc, au final... ça attire un public plus adulte que ce que je pensais. Parce que j'avais peur, moi, justement, de la... Comment dire, de qui est-ce qu'on allait attirer en salle avec un nom comme ça, quoi, à l'époque.
Du Rififi chez les mômes, Bugsy Malone, c'est une parodie de films de gangsters avec des enfants de 12 ans.
Ouais.
C'est une guerre de gang entre gangs de gamins de 12 ans, entre Fat Sam et Dan le Dandy. Enfin, la traduction est un peu foireuse sur le doublage. Qui vont se battre à coups de sulfateuse à crème pâtisserie.
À Chantilly.
À Chantilly,
ouais. Ouais, alors c'est assez suivant
non,
le...
Non, c'est de la crème fouettée américaine.
C'est de la crème pâtissière, ouais, c'est de la crème fouettée américaine. Avec des poursuites en voiture à pédale.
C'est génial, ça.
Un film, le premier film d'Alan Parker. Alors, il avait déjà réalisé pour la télé aussi. Ne m'engueulez pas sur les longs métrages, mais c'est le premier film cinoche, voilà, d'Alan Parker. Alan Parker qu'on connaîtra plus tard pour des petits films comme Midnight Express ou Mississippi Burning.
Ouais. Evita, The Wall de Pink Floyd R. Voilà, The Wall de Pink Floyd, c'est ça. Oui,
voilà.
C'est...
voilà, une petite.
Pas grand-chose.
Une petite
pas
filmo,
grand-chose.
Ouais. Filmo.
Et on peut noter au casting aussi la présence de Judy Foster.
Pour son deuxième rôle, hein.
Ouais, elle était toute jeune à l'époque. Elle joue le rôle d'une blonde fatale.
Elle sortait de Taxi Driver et fait ça, c'est incroyable.
Ah non, mais moi, si j'avais pas lu la liste des acteurs, je l'aurais pas reconnue, hein.
Ah ouais?
Ah ouais? Moi, je trouve qu'elle est hyper reconnaissable.
Ah ouais, elle dégage elle-même, quoi.
Elle dit, oh, mais elle ressemble trop à Jodie Foster.
Moi, je l'aurais pas reconnue.
Elle. Ah ouais? Je sais pas, je trouve qu'en fait, elle a gardé la même bouille.
Et je le précise, c'est un film de 1976. Voilà, c'est pour ça qu'elle a 12 ans. Dans ces eaux-là.
Est-ce que vous avez remarqué aussi... Alors, enfin, moi je l'ai aperçu parce qu'ils mettent son nom à la fin du générique, mais dedans, il y a Ruben Fleischer. Il y a le réalisateur de Rocketman qui joue un des gosses.
Dexter Fletcher.
Ah ouais,
Dexter Fletcher, pardon. Ouais.
Ruben Fleischer, c'est Zombieland.
Ah non, ah.
Et Venom.
Dexter Fletcher.
Non, pas remarqué.
Non,
j'ai
pas remarqué.
Le lapsus, c'est incroyable.
C'est un film quand même qui a été en compétition à Cannes. En 76, qui a eu 3 BAFTA et qui a été nommé à la musique pour Paul Williams. Voilà.
Parce
Paul
que
Williams,
qui
n'est pas John Williams.
Hein, qui avait fait quand même Phantom of the Paradise 2 ans avant.
Ouais.
C'est ce qu'on n'a pas dit aussi en résumant, c'est que c'est un film de gangster et une comédie musicale à la fois.
Oui.
Oui. Alors, petit bémol sur la version que nous avons vue, il n'y avait que la version française et la version allemande disponibles.
Oui.
Alors moi j'annonce, j'ai complètement fraudé. Désolé pour le challenge des plateformes, j'en ai rien eu à cirer. Au bout de 5 minutes, j'ai pas pu suivre le film en français, j'ai été le chercher en anglais. Voilà.
Ah mais le non mais le doublage était mauvais. Putain.
Voilà.
Surtout attends, déjà que on sent que Fat Sam il joue pas très bien.
Il joue pas très bien non.
mais le doublage au secours quoi. Oh mon dieu.
Surtout et le pire c'est quand il parle italien.
Mais alors,
c'est très très drôle ça.
Le fait est que dans la version anglaise, donc, parce que c'est bien parce qu'on va pouvoir faire des petits comparatifs, il ne parle pas en italien.
Ah ouais ? Il parle en français ?
Il parle pas d'autres langues, il parle anglais, c'est tout. Enfin, il y a pas de moment où il parle en italien. Au début, il y a vaguement de l'espagnol, mais c'est à la toute première scène. Et puis après, non, on parle en anglais. Il y a pas la mafia n'est pas notée comme étant spécialement italienne. Enfin, en tout cas, ou alors j'ai pas remarqué du tout.
Ah, c'est l'effet Al Capone, ça.
Mais ce qu'on entend par contre vraiment, c'est en anglais, c'est justement cette accentuation, ce choix d'accentuer sur l'accent du Bronx. New-Yorkais,
ouais,
de l'époque, ouais. Qui est par contre génialissime et qui n'y a pas en rendu en français.
Ah mais je vais le revoir en anglais du coup, putain.
Et alors, outre l'accent italien lamentable, enfin c'était terrible, de ce pauvre gamin, c'est une comédie musicale, on l'a dit, il y a des chansons en anglais, et donc elles n'ont pas été rechantées ni quoi que ce soit, elles n'ont pas été traduites, elles n'ont pas été doublées, ce qui fait que t'amènes des gamins à voir ça, il y a des chansons en anglais, alors on perd pas grand-chose de l'intrigue, hein. Mais dans une comédie musicale, je trouve que c'est dommage.
Mais en plus, j'ai remarqué un truc parce qu'à un moment donné, j'ai switché à l'allemand juste pour voir ce que ça donnait pendant le film. Et en fait, ça passait pendant. Ben, en fait, c'était à la fin de la première chanson et Bugsy Malone commençait à parler. Et en fait, le son est meilleur en allemand. Le son est bien meilleur en allemand. Mais oui, mais j'ai pas compris pourquoi.
C'est parce qu'on n'est pas bon en doublage. Il y a ça.
Non, c'est ça, tout, c'est pas parce vrai.
C'est pas vrai. Excuse-moi, les enfants.
Sur cette version-là,
ça
peut-être.
Va pas, ouais.
Sur cette version-là, ok.
Bon, moi, je suis bien content d'avoir le Blu-ray et de pas avoir dû subir ni les versions françaises ni les versions allemandes.
Oh, Monsieur Trish, il a le Blu-ray chez lui. Alors là,
il y a plus de respect des plateformes, hein, je vous le dis.
J'aime beaucoup Alan Parker.
Bon, mis à part ces quelques soucis de zone, ces quelques soucis de version, qu'avez-vous pensé de ce film ? Est-ce un hold-up ? Y a ça qui soupire.
Non, franchement, moi j'ai bien aimé, je me suis bien amusée. Un petit peu longué parfois, même si le film fait 1h30, ce qui est relativement court par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir ces dernières années. Mais franchement, je me suis bien mise dedans. C'était super sympa. J'avais un petit problème avec le développement de Bugsy Malone parce qu'en fait, j'aurais pas lu le synopsis, j'aurais pas trop compris ce qu'il fichait là parce que il commence à prendre de l'importance relativement tard dans l'histoire. Il est là, hein, mais enfin, ses actions ne sont presque pas liées à l'intrigue principale qui se développe devant nous. Donc voilà, ça serait peut-être le petit bémol. Mais sinon, franchement, ce monde alternatif où il y a que des gosses entre 10 et 17 ans, franchement, moi j'ai kiffé. Il y avait pas un seul adulte, c'était génial. C'était mon rêve quand j'étais jeune, que les adultes disparaissent. Du coup, franchement, j'ai kiffé. Et j'avais des sursauts de réalisme qui me revenaient des fois parce que les premiers temps, quand les gens se prennent des tirs de mitrailleuse crème fouettée dans le visage,
ouais.
On comprend que ça veut dire qu'ils sont morts. En plus, ils se les prennent dans la tronche, quoi. Et la scène finale, en fait, on se retrouve avec tout le monde qui se tire dessus et en fait, c'est la grosse fiesta.
Oui.
Du coup, j'avoue que j'avais pas trop compris, j'étais là genre, d'accord, ok.
Scène super jouissive, hein, pour ma part.
Mais ouais, mais en la voyant, je me disais, les acteurs ont dû s'éclater à mort à tourner ça, parce que franchement, foutre le bordel, on te paye pour foutre le bordel, c'est génial, c'est absolument génial. Après, ce que j'ai bien aimé en version française, c'est certaines expressions. En gros, je les ai notées parce que c'était génial. Il y a du schtroumpf en vue. Il y avait fais gaffe, t'accélères mon moteur.
Quand la femme fatale le chauffe, non
c'est ça, ouais, c'est ça. Quand Jodie Foster le chauffe. Et il y avait aussi je vais aller manucurer mes gants. C'est le truc, tu vois. Il y avait quelques expressions comme ça. Je me suis dit, ah ouais, quand même, c'est...
C'est pas c'est du Audiard, mais ça y fait penser, oui.
C'était...
Plus pas.
Non, mais ça fait penser au... On recherche la formule comme dans les films noirs, un peu, les expressions. Mais c'est pas du Audiard, non. Hera, oui, vas-y.
C'est ça qui est vraiment bien dans ce film, c'est le respect des codes du film noir gangster est vraiment nickel. C'est vraiment hyper adapté, surtout au niveau des dialogues. Moi, du coup, comme je disais, je l'ai vu en anglais, donc c'est vraiment respecté au niveau des accentuations, au niveau des comportements. Et ça, j'ai trouvé que c'était ce qui était vraiment fantastique, au-delà du fait que ce soit des enfants. C'est-à-dire que si on retire le concept des enfants, l'écriture reste vraiment fantastique. On aurait pu me servir le même film avec des adultes qui se battent avec des flingues à pâtisserie, ça m'aurait fait marrer quand même. Donc ça, c'est vraiment, vraiment très chouette. Et ce que je retiens surtout personnellement du film, que j'ai trouvé bien, mais sans non plus avoir une envie folle de le revoir ou autre, c'est vraiment ce que je retiens, c'est le talent de Jodie Foster, qui est juste époustouflante, même qu'elle a, ouais, elle a 12 ans, elle doit avoir peut-être 12-13 ans, j'ai pas vérifié son âge, ouais. Et elle est absolument incroyable dans son jeu en tant qu'elle joue la femme du gangster principal, donc Fat Sam. Et elle te joue cette femme fatale que tu retrouves dans tous les films de gangsters, mais sans que ce soit trop sexualisé, ce qui était une de mes peurs en voyant le film.
Exactement,
mais est-ce qu'il va sexualiser les gamins,
flippant,
quoi.
Ouais.
Et en fait, ils se mettent à... Il y a une scène au tout début où ils sont donc dans le speakeasy de Fat Sam. Donc Fat Sam possède un speakeasy où se retrouvent tous les personnages pour interagir entre eux et où se passent des castings de danse. Et on pourrait s'attendre à ce que les enfants, les gamines qui dansent soient hyper sexualisées dans leur petite tenue en short, etc. Et en fait, non. Et il n'y a pas de regard du réalisateur qui est malsain ou autre. Et c'était vraiment un truc qui me faisait flipper, parce que dans les films de gangsters, il y a toujours des rapports à « t'as piqué ma meuf, t'as couché avec telle nana, t'as fait ci ou t'as fait ça ».
Il y a un peu de ça quand même.
Il y a un peu de ça quand même, mais c'est, y a toujours les interactions, il y a toujours le « t'es ma femme, t'es ma chérie », mais il n'y a pas d'évocation sexuelle. Ce que je trouve déjà super fort pour une parodie de ce type de film, et encore plus fort par rapport à l'époque où on aurait limite pu se permettre un peu plus de le faire par rapport à maintenant. Et du coup, ouais, ça, c'est vraiment grande réussite,
ouais,
sur l'exécution.
Mais c'est ça, c'est... Bah, en fait, c'est ça, c'est que les filles dans ce film, elles sont représentées de manière plutôt glamour que sexy.
C'est ça.
On sent que c'est les années 20, 30, voilà, c'est l'époque où les filles se maquillent super bien, elles ont de superbes robes, etc. Mais ça, justement, ça reste très correct. C'est pas malaisant, à aucun moment.
À noter au passage, on parle de Jodie Foster. Alors, elle chante dans le film, mais ce n'est pas sa voix, c'est du playback. Hein. Les enfants sont doublés par des chanteurs adultes.
Ouais, moi, ça m'a choqué quand je l'ai vu, du coup. Parce qu'en fait, je l'avais vu il y a très, très longtemps et je me souvenais pas. Et là, du coup, en version française, ça choque parce que, bon, déjà, ça passe en anglais et on sent que c'est vraiment pas la même voix. Et en plus, on sent que c'est des voix plus adultes. Donc, moi, à la fin du film, j'ai dû aller chercher. Et du coup, oui, c'est bien notifié que, du coup, les enregistrements de chansons sont faits par des adultes. Mais moi, du coup, ça choque, surtout en version française.
Il y a des moments où ça marche plutôt bien, je trouve que, enfin, autant quand il y a eu des, quand il y a eu du dialogue, genre quand ils sont en plein dans le musical où ils sont en train de parler entre eux et ça se met à chanter, la distanciation, on la sent énormément. Par contre, quand c'est le petit balayeur qui se met à faire son espèce de morceau un peu soul et tout seul devant le
ça
bâtiment,
passe
je trouve
mieux,
ça magnifique, ouais.
Oui, ça passe, moi, oui, avec les claquettes, c'est vrai que ça, ouais. Ce passage-là, je pense que c'est le mieux en termes de musical et en termes de mélange voix adulte et avec l'enfant qui danse.
Par contre, ils m'ont filé un accent, c'est mamie dans Autant n'importe le vent, hein.
Ah, merde.
Putain. oui, c'est le petit noir qui a un accent, qui sait pas parler. Il a dû naître là-bas, grandir là-bas, mais il a un accent, quoi.
Ah, mais dans la version anglaise, il y a aucun souci, quoi.
Mais ouais, mais en français, il a l'accent, putain.
Ouais. Putain.
Bah, la version française dans les années 70, oui, les blacks
ouais,
ont un accent,
ouais.
Ouais. Ah, bah oui.
C'était bien avant Eddie Murphy, qui lui aussi avait été doublé avec
non.
un sacré accent.
Bah non, c'est surtout son doubleur. Après, son doubleur avait un accent. Il n'était pas en train de le forcer, mais le doubleur d'Eddie Murphy, là, qui est mort il n'y a pas très longtemps, il avait déjà un accent très prononcé, lui, de base, en fait.
Bon, moi, pour ma part, je trouve que c'est un film qui a vieilli. Alors, peut-être sûrement cette version-là, il joue pour beaucoup dans le fait que je trouve que le film a bien vieilli, mais il y a aussi des trucs comme, par exemple, le générique d'intro. Alors, autant j'aime bien la scène d'ouverture qui fait film noir avec machin à déconner, du coup. Il y a un gars qui se fait dessouder, en gros, dans une ruelle et on comprend pas tout de suite que ce sont des enfants. Ça, je trouve ça intéressant. Par contre, après, le film commence, il y a le générique du film Bugsy Malone, il y a la petite chanson Bugsy Malone et il y a des images comme ça de plans. Et je me suis dit, c'est quoi? C'est une sitcom? C'est une série? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça m'attendait, mais je me suis dit, mais on est où là? Mais qu'est-ce que c'est? Enfin, je trouve que c'est un film qui est très gentil, qui est très sympa, qui se regarde, mais on sent qu'il y a des petits trucs, on sent qu'il n'y a pas une grosse. Comment dire? Peut-être une grosse prod. C'est vrai qu'il y a des trucs qui ont pris un coup de vieux, comme cette façon de faire par exemple, qui m'ont un peu sorti du film par moment. Après,
ah, mais
c'est...
On sent que c'est le décor studio, quoi. C'est pas le vrai New York, oui. Déjà.
Ça, à la limite, j'en veux pas au film. C'est des enfants. Oui, je veux bien qu'ils fassent un studio. On s'amuse. Et d'ailleurs, la scène de fin, que je trouve très jouissive en réalité, celle où tout le monde s'envoie de la tarte à la crème dans tous les sens, c'est un jeu. C'est qu'on s'amuse. Donc, c'est une rigolade. Après, c'est vrai que le côté parodique, bon, on a bien compris la parodie. Et donc, on détourne les codes, mais c'est pas hilarant non plus. C'est vrai que c'est une parodie qui est pas spécialement drôle.
Mais c'est ça que j'aime, moi, en fait, justement, c'est que c'est pas une parodie qui se veut drôle. C'est pas... En fait, moi, je trouve que pour moi, c'est même pas une parodie, en fait.
Oui, c'est pas l'intention, oui, c'est pas tant un reproche. Hein.
Non, je vois ce que tu veux dire, t'inquiète pas. Mais j'allais dire, parce que moi, c'est justement ce que j'aime énormément dans ce film, c'est pas une parodie pour moi, c'est un détournement des codes, en fait, c'est une réadaptation. Parce que c'est un film qui se prend extrêmement au sérieux. Et c'est ça qui est super chouette, en fait. C'est le fait que tout soit aussi sérieux, bah, comme le disait Hera sur l'écriture, tu pourrais remplacer ça par des adultes, il n'y a aucun souci. C'est que du coup, bah, tous les enjeux sont clairs et il n'y a aucun moment où on se dit, vu que c'est des gosses, on éclate les enjeux, c'est pas grave, regardez-les, ils ont des petits costumes, ils sont mignons. Bah non, on leur regarde des enjeux clairs avec une intrigue claire et c'est un vrai film de gangster, c'est juste qu'on remplace les codes visuels. Et c'est ça qui est super chouette. Et des fois, tu peux juste t'évader en oubliant que c'est des gosses et te laisser prendre avec ça parce qu'il y a des enjeux, c'est sérieux, quoi.
Ouais, je suis d'accord avec Thierry. Je trouve pas que c'est voué à l'humour. Enfin, honnêtement, moi, j'ai pas du tout ri devant ce film. J'ai trouvé ça, encore même pas spécialement attendrissant. Intéressant parce que c'était des enfants et que du coup les films concept c'est toujours intéressant à voir, mais je suis effectivement pas sûr que ce soit que l'objectif ce soit de faire rire. Ouais. C'est plus peut-être visible, hein, c'est peut-être plus bien pour essayer d'expliquer ou pour montrer à un enfant qu'est-ce que c'est qu'un film de gangster, parce qu'il n'y a pas de la violence est hyper déguisée, donc tu peux montrer ça à un gamin sans trop de problèmes en disant bah voilà, c'est un film noir, un film de gangster, ça donne ça.
Oui, et puis il y a les passages super violents avec des headshots de crème pâtissière.
Ah ouais, mais les headshots ils sont super. C'est génial ça.
Moi, il y a un truc, moi j'ai pas vu le film, mais ça m'intrigue beaucoup ce que vous dites. D'autant que bah, du coup, le film, moi ce que j'avais compris, c'est que c'était un hommage du coup, plus qu'une parodie ou autre, d'un film, enfin des films des années 20-30 de la Prohibition, genre Scarface de Ward Hawks par exemple, qui à mon avis doit bien se ressentir, enfin de ce que j'ai compris du synopsis que vous avez raconté. Mais ce qui m'intrigue beaucoup, c'est que du coup, ça a l'air assez léger. Enfin, déjà, on prend le film noir, on détourne les codes, mais de manière. Avec des enfants, on fait des batailles de tarte à la crème, etc. Et moi, ce qui me fait beaucoup sourire, c'est que le film sort quand même en plein milieu, dans la fin du Nouvel Hollywood, et que 2 ans avant, il y a aussi un film qui reprend les codes du film noir, qui les détourne, c'est Chinatown, mais qui est genre ultra sombre. Et que là, il y a Alan Parker, il arrive en mode, bon, ils sont bien mignons avec leur film très très dur, mais on va faire un peu, on va apporter un peu de légèreté à tout ça, on fait un film en studio, bien, avec des gosses, etc. Enfin, c'est bizarre, je sais pas.
On était sur la légèreté, on va s'envoler. On va rester dans la comédie musicale. I thought once, Mr. Lermontov, that there would be no room in my life for anything but dancing. You will think so again, Valia. You're jealous of her. Yes, I am. But in the way that you will never understand. Well, Vicky? Julian, I love you. But you love that more. Les Chaussons Rouges, The Red Shoes, film britannique de 1948 de Michael Powell et Emmerich Pressburger, avec Moira Shearer, Anton Walbrook, Marius Goring, Leonid Massin et Robert Altman.
Il y a Robert Altman.
Robert Altman ? Il y a Robert. What ?
Helpman.
Ah.
Parce qu'avec Thierry, on a tout de suite réagi, je crois, là, il y a eu un bug.
Non. Film grandiose, référence de la comédie musicale, film qui a remporté 2 Oscars en 1949, dont la meilleure direction artistique et la meilleure musique, ainsi qu'un Golden Globe, version restaurée en 2010 même.
Sous la direction de Scorsese, c'est son film préféré d'ailleurs.
Sous la direction de Scorsese, c'est un film qui a également inspiré Brian De Palma pour Phantom of Paradise, pour quelques scènes, quelques plans que Brian De Palma adore. Qui peut me résumer ce film ? J'ai vu la bande-annonce, elle est magnifique, mais je n'ai pas eu le temps de le voir, hélas. J'ai eu quelques imprévus cette semaine. Qui se lance dans le résumé de ce film ? Parce que moi, tout ce que je pourrais dire, c'est que c'est une réadaptation du conte d'Andersen, Les Chaussons Rouges, l'histoire d'une danseuse ravie de trouver des chaussons magiques, mais qui déchante lorsqu'elle est condamnée à danser jusqu'à la mort.
En fait, oui, donc c'est l'histoire d'une danseuse qui rejoint la compagnie d'un metteur en scène, du metteur en scène Lermontov, donc très connu, qui commence à faire des tournées en Europe. Et il devient petit à petit, donc il explique, il raconte ce conte d'Andersen, et c'est ça qu'il met en scène, il choisit de mettre en scène les chaussons rouges. Et il veut un peu que sa danseuse principale devienne l'incarnation du personnage du conte. Donc elle danse jusqu'à l'épuisement et donc qu'elle ne pense plus qu'à danser et qu'elle ne puisse plus profiter de sa vie pour qu'elle puisse totalement se consacrer du coup à son œuvre. Donc il devient complètement obsessionnel là-dessus.
C'est ça. Et on a une jeune danseuse, la jeune Victoria Page, c'est ça, Page sur la version, interprétée par Moira Shearer, qui est déchirée entre son amour de son jeune amant et son amour pour la danse.
Tout à fait.
Avez-vous apprécié ce film ?
Pas trop.
Mais ça, c'est un de mes films préférés.
Ah voilà, quand donc, même.
Oui. Moi j'adore aussi. Hein.
On a des avis mitigés, mais alors donc voilà, Laura, c'est un de tes films préférés. Parle-nous de ce film un peu.
Bah, après, je pense que c'est surtout parce que j'adore déjà la danse classique. Donc quand je l'ai découvert il y a 10 ans, donc forcément, ça m'a parlé. Et en plus de ça, en fait, ce que j'adore, c'est vraiment filmé comme une tragédie et comme un ballet. En fait, il y a vraiment avec des actes qu'on voit pas forcément dans le film parce que c'est pas chapitre par chapitre. Mais en fait, on voit qu'il y a des actes la première fois qu'elle découvre le metteur en scène et qu'elle essaye de rentrer dans sa compagnie. Puis après, ça passe au moment où ils sont à Paris. Puis après, ils passent à Monte Carlo. Puis le moment après où elle part de la compagnie parce que du coup elle s'est mariée, donc du coup pour Lermontov c'est pas possible, c'est soit elle était dans ses étoiles, soit elle se mariait mais elle pouvait pas faire les deux, donc elle part. Puis après du coup il y a le dernier acte où vraiment c'est vraiment une tragédie pure qui se finit en apothéose. Donc en fait je trouve que le film en soi prend tous les aspects d'un ballet composé par acte et du coup le transmet au cinéma, et il y a vraiment un passage dans le film où vraiment on a le ballet de A à Z et c'est grandiose ce passage, c'est vraiment magnifique. Et on sent en fait que beaucoup de comédies musicales se sont ensuite inspirées de ce film là, c'est vraiment, enfin ça se ressent beaucoup.
J'aurais pas dit mieux franchement.
Et d'autant plus que bon, le peu que j'ai vu la bande-annonce, c'est, enfin, y a du budget à l'écran. Comme tu l'as dit, ça a été réellement tourné dans plusieurs villes, Paris, Monaco également, Londres, me semble-t-il aussi.
Oui, il y a vraiment beaucoup de budget.
Il y a des figurants, il y a des décors, ça bouge dans tous les sens, il y a de la chorégraphie, enfin, on en a plein les yeux et en couleur.
Ah ben oui, justement, la couleur, c'est vraiment très important. D'ailleurs, je pense que c'est pour ça que Scorsese a voulu le ressortir une édition. D'ailleurs, ils ont fait un super beau coffret, Blu-ray, etc. Parce que justement, en fait, la couleur est très très importante. Bon, déjà parce que ça s'appelle les chaussons rouges, donc forcément, la couleur rouge devait ressortir. Mais il y a un travail sur les couleurs qui est assez exceptionnel, qui forcément sur Arte, ça se ressent un peu moins. Mais vraiment, moi, pour la première fois, je l'ai vu sur grand écran et c'est vraiment grandiose. Comme c'est vraiment un spectacle. En fait, ce film, c'est un spectacle. Vas-y, Eli, tu peux parler, pardon.
T'inquiète. Non, mais je suis d'accord, mais du coup, ouais, pour travailler sur la couleur, bah, en fait, Scorsese dit que c'est son film préféré, il dit surtout que c'est le plus beau film du monde en Technicolor, en fait, qui était donc la technique de couleur un peu ultime des années 40-50. Et sur le budget, moi, ce qui me frappe, et c'est propre à l'époque, et beaucoup à ces deux réalisateurs-là, à Powell et Pressburger, c'est l'utilisation des matte paintings, des peintures de fond sur les scènes. Et dans ce film-là, toute la séquence du ballet, l'arrière-plan, mais c'est hallucinant. Enfin, déjà, la scène du ballet, c'est un des trucs les plus fous que j'ai vu de ma vie. C'est une de mes scènes préférées de tous les temps. Et elle est sur YouTube. Elle dure 15 minutes. Tout le monde doit se la faire. C'est dingue.
Le ballet est en intégralité, oui, dans le film.
Ouais. Et c'est vraiment 15 minutes où c'est du cinéma, mais monstrueux. C'est hallucinant. Il y a une virtuosité qui se dégage. Et comme disait Laura, on est vraiment face à une tragédie. Et il y a toute une dimension épique qui s'empare du film. Et c'est assez dingue à voir. Parce que moi, du coup, quand je l'ai vu, bah, c'était sur grand écran et ça m'avait vraiment transporté, c'était assez hallucinant. Et le film est vraiment magnifique. Après, il est, je pense que c'est pour ça qu'Hera, toi, tu l'aimes pas trop, de ce que j'ai cru comprendre, c'est que c'est tu trouves un peu long, peut-être. Et c'est vrai que le film prend quand même, mine de rien, assez son temps. Parce que justement, il suit vraiment une structure classique de ballet avec plusieurs actes bien, bien précis, tout est bien en place. Ça peut ennuyer, mais, et quand on se laisse emporter dans le délire, c'est vraiment bluffant.
Ouais, bah, je suis tout à fait d'accord.
Ah, c'est pas tant la longueur, et je rejoins... ce qui est marrant, c'est que tout ce que tu viens de dire, Laura, je trouve ça super beau et totalement vrai, je l'ai ressenti aussi. Et j'ai trouvé ça, j'ai aussi trouvé ça grandiose et assez incroyable dans tout ce qui est décrit. La scène du ballet, elle est absolument sublime. Donc ça, je suis totalement d'accord avec ce que vous dites. Mais c'est juste que je me suis pas laissée entraîner et j'ai trouvé que ça manquait de piquant. J'ai trouvé ça super survolé, en fait, comme film, alors qu'il y a une profondeur psychologique hyper forte et que j'ai pas senti. En fait, je trouve qu'il y a tout est mis sur la beauté. Tout est mis sur les costumes, sur le ballet, sur la danse, sur tout ça, mais j'ai pas senti de profondeur dans les personnages, j'ai pas senti de profondeur dans les émotions, j'ai pas senti de profondeur dans les interactions entre eux, tout est ultra survolé, c'est genre, bah, j'agis comme ça en tant que metteur en scène, voilà comment est-ce que toi tu dois agir en tant qu'actrice et toi en tant qu'amant. En fait, j'ai vu des piliers archétypaux sans voir leur profondeur à eux, et c'est ça que j'aime, moi, voir au cinéma. Et je pense que c'est pour ça que j'ai pas été charmée. C'est que ça, la tragédie dont vous parlez, c'est quelque chose que j'adore voir dans les ballets et dans les opéras, mais pas spécialement au cinéma. Et au cinéma, j'ai besoin de voir de l'émotion pure, j'ai besoin de voir du cru qui ressort. Et je l'ai pas senti là. C'est plus ça qui m'a dérangée, mais je reconnais, je trouve que le film a énormément de qualité et est très beau, mais j'ai pas passé un moment qui... Enfin, j'ai pas été touchée par ce qu'on m'a montré, en fait.
Après, je peux comprendre, mais justement, je pense que l'aspect visuel aussi joue beaucoup, moi, enfin, personnellement, sur les émotions que le film dégage, en fait. C'est que j'ai vraiment à la fois une fresque psychologique et picturale, en fait, qui se joue devant moi. Il y a un mélange de couleurs et il y a tous les dilemmes moraux qu'a le personnage, qui sont très intéressants. Enfin, on est vraiment sur un rise and fall, au final. Et c'est aussi pour ça que je pense que Scorsese adore le film, c'est qu'il y a vraiment tout ce qu'il aime.
Ouais, bah voilà, bah je crois que c'est pour ça que j'aime pas, parce que j'aime pas Scorsese, tu vois. Et du coup,
bah voilà.
vu que j'aime pas du tout comment Scorsese organise ses trucs, je comprends pourquoi ça, c'est son film préféré. C'est que ça suit t'as une linéarité très classique du cinéma années 50. Ouais, parce que là, Chausson Rouge, c'est 48. Donc on entre.
48, ouais.
Ouais, on s'apprête à entrer dans les années 50. Et c'est vraiment tout ce cinéma-là auquel je n'adhère absolument pas, parce que tout est misé sur le pictural et sur le grandiose grandiloquent. Donc c'est juste moi qui matche pas avec cette époque, je pense.
Après, je trouve qu'il y a quand même une belle... Enfin, les personnages sont un peu plus étudiés que juste survolés, mais c'est vrai que oui, l'aspect principal, c'est vraiment le visuel. Et du coup, peut-être qu'il faudrait que tu regardes... Enfin, je sais pas si tu connais Le Narcisse Noir, c'est le film précédent des deux réals. Et pour le coup, peut-être ça te parlerait plus, c'est beaucoup plus psychologique.
Et bah, pas du tout, mais je le note.
C'est très très bien. C'est sur des nonnes qui deviennent folles parce qu'il y a un homme.
Ah, trop bien.
C'est le genre de truc qui peut plaire à Hera.
Complètement moi, complètement ma cam.
Ah voilà, bah tu vois, d'un seul coup ça parle plus là. C'est...
Ouais.
Allez, nous passons du ballet à l'opéra. Phantom of the Opera, le fantôme de l'opéra. Alors, ici, on ne parlera pas de la version de Brian De Palma, ni de celle de Terence Fincher, ni celle de Dario Argento,
non.
Ni celle de Joel Schumacher. Non, on parle...
Putain, pourtant celle de Joel Schumacher.
On parle celle de 1925, celle de Rupert Julian, d'après le célèbre roman de Gaston Leroux, roman de 1910. Celle d'Éric, le fantôme de l'opéra, rejeté par la société, qui vit dans les sous-sols de l'opéra de Paris. Il tombe fou amoureux d'une chanteuse, la magnifique Christine Daae, avec deux A, comme clac, podcast.
Content.
Il va intriguer pour la faire monter en haut de l'affiche pour qu'elle obtienne le premier rôle et qu'elle devienne célèbre. Mais ensuite, il va vouloir lui déclarer son amour et la garder pour lui. La jeune chanteuse va tenter de s'évader et d'échapper aux griffes du fantôme grâce à l'aide de son amant, son amoureux, le vicomte Raoul de Chagny. Magnifique version d'une heure et demie, qui a été restaurée, qui a été sonorisée. En 29, l'Universal a refait la version et l'a sonorisée, avec quelques touches de couleur également. C'est assez surprenant, mais c'est très plaisant pour ce classique de la littérature et du cinéma, hein, finalement, l'opéra, enfin le fantôme de l'opéra, moult fois repris à l'écran. Quelle est votre impression sur cette première version, cette super production de l'époque d'ailleurs ?
Je connaissais l'histoire, globalement. J'avais jamais lu le livre et je n'avais jamais vu d'adaptation du Fantôme de l'Opéra, donc c'est mon premier visionnage pour le coup. Et je dois dire que j'étais très surprise, mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire que faut savoir que le film il est muet, muet. La plupart les personnages ne dialoguent pas, on les entend pas parler.
Non, c'est muet. Tout ce qui a été sonorisé dans la version qu'on a, c'est que alors il y a l'opéra de Faust.
Oui.
Donc on a des extraits d'opéra à ce moment-là.
Voilà.
Donc
mais en dehors de ça, ça reste un film muet. Je pensais vraiment que ça allait me rebuter. Et en fait, pas du tout. C'est-à-dire que j'étais dans l'expectative des panneaux. Dès que je voyais les personnages bouger les lèvres, je savais qu'il y avait un dialogue. J'étais dans l'expectative des panneaux. J'étais là, ok, qu'est-ce qu'ils sont en train de dire? Et puis, il y a aussi des moments où ils parlent et il n'y a pas de panneaux. Du coup, je commençais un petit peu à m'imaginer les dialogues. C'est un très bon jeu. En dehors de ça, le film m'a franchement impressionnée parce que il y a un jeu, comme tu le disais Thomas, alors je savais pas qu'ils les avaient rajoutés, les couleurs, mais il y a un jeu de couleurs qui est, avec ce film, je pense que j'ai réussi à comprendre d'où viennent quand même les codes du cinéma. C'est-à-dire que, on va avoir des scènes avec de la lumière rouge, puis verdâtre, puis un petit peu bleuté et puis neutre en noir et blanc, etc. Et à chaque scène correspond un sentiment, ce qui va de mise aussi avec la musique, c'est-à-dire que la musique aussi prend une place extrêmement importante, et quand c'est censé être un moment angoissant, quand c'est censé être un moment joyeux, ou alors c'est censé susciter de la peur, etc., la musique colle parfaitement, et c'est des codes qu'on a encore aujourd'hui, c'est-à-dire que ça se calque parfaitement à l'ambiance, et j'ai trouvé ça extrêmement fascinant, d'abord à cause de l'histoire, mais aussi par rapport, c'est un petit peu extra-diégétique, où je me dis, je me faisais un petit peu une école de cinéma, quoi. C'est-à-dire que je me mettais à analyser, en fait, les codes du film, en les transposant avec ce qu'on connaît aujourd'hui, et c'est un exercice absolument génial à effectuer. Donc, thumbs up.
Mais j'ai pas beaucoup plus à rajouter, mais j'ai vu le Fantôme de l'Opéra, je l'ai vu quand j'étais très jeune, quand j'étais ado. Je l'ai pas revu. J'en ai vu d'autres, du coup. Mais j'avais complètement adoré, j'ai été complètement charmée par les différents personnages, l'histoire de fond, ce rapport au sacrificiel de l'artiste que je trouve hyper intéressant parce que tu remets dans la perspective de l'époque, il y avait toutes ces découvertes et toutes ces avancées au cinéma, et il y avait déjà ces questions, c'est un grand sujet, hein, de toute façon, le sacrifice entre est-ce que je dois choisir l'amour ou l'art, mais je trouvais que à l'époque, ça avait particulièrement un sens avec toutes les avancées de cinéma et les premières personnes qui pouvaient devenir acteurs, justement. Et où il y avait un côté... c'est l'émergence de nouveaux métiers, l'émergence de nouvelles facultés. Et je trouvais ça particulièrement bien représenté. Il y a tout un charme de l'ancien dans ce film qu'on peut le revoir maintenant avec le même plaisir qu'il y a 10 ans, ou qu'on pourra revoir aussi dans 20 ans. C'est un film qui vieillit jamais vraiment dans le mauvais terme.
Mais je suis complètement d'accord parce que j'ai l'impression que, c'est un film antique dans l'histoire du cinéma, mais en même temps, il a quelque chose de très actuel, d'intemporel plutôt, c'est-à-dire que, quelle que soit l'époque à laquelle tu la regardes, c'est tellement reculé dans l'histoire du cinéma que finalement, ça se laisse regarder quelle que soit l'époque.
Ah, c'est un film qui a presque 100 ans quand même, hein. Voilà. Laura ?
Moi, je suis comme vous, en fait, j'ai été hyper charmée. En fait, je me suis laissée porter par les images et la musique. Et alors, je trouve qu'il y a un travail sur les décors qui est magnifique. Tous les passages dans les sous-sols de l'opéra, moi, je les trouve grandioses. Et il y a une espèce d'impressionnisme aussi qui se met en place, surtout au début, où on voit l'ombre du fantôme, et ce passage, en plus, du coup, il y a une espèce de lumière rouge qu'ils ont rajouté de la couleur, qui, franchement, moi, ce début m'a déjà transporté, puis en plus, après, ouais, les décors, la musique, la scène du bal aussi, quand il descend les escaliers avec la musique, ça m'a foutu des frissons. Donc, ouais, c'est vraiment un bel objet, en fait, je pense, c'est vraiment un bel objet à regarder et à apprécier.
Oui, des décors sublimes, ça a été tourné dans les studios d'Universal, ils ont reconstitué l'opéra Garnier, l'opéra de Paris, donc c'est très impressionnant. Ils ont aussi également réutilisé des décors de Notre-Dame de Paris, enfin du Bossu de Notre-Dame, comme ils appelaient ça, qui avait été tourné quelques années avant. D'ailleurs, il y a une poursuite qui se passe devant Notre-Dame, on le voit là, les décors. Et c'est vrai que c'est grandiose, il y a du monde à l'écran, il y a des décors sublimes. Quand on est dans les sous-sols, il y a des jeux avec le décor, parce qu'il y a des statues géantes. À un moment, il y a l'ombre qui passe dans la gueule d'un diable.
Ce passage est magnifique.
Ce passage est dingue, j'ai pris...
Mais en fait, on se rend compte que chaque élément a son utilité. Il n'y a rien qui est là juste pour être là, quoi.
C'est ça. C'est ce qui était génial dans le cinéma de l'époque, c'est que tout a un sens. Chaque geste a un sens, chaque position de caméra, chaque décor, chaque élément a quelque chose, ne serait-ce que parce qu'on ne pouvait pas se permettre de gaspiller de la pellicule, quoi.
Et parce qu'il n'y avait pas de dialogue aussi, en vrai. Du coup, ça forçait à la narration par l'image plus que la narration... linguistique, on va dire. Mais du coup, j'ai pas vu le film, mais j'aime beaucoup la période en question. Enfin, je me suis beaucoup consacré au film Universal il y a pas longtemps. Et en vrai, celui-là, il est super important, mine de rien, parce qu'avec le Bossu de Notre-Dame que tu mentionnais, Thomas, c'est les deux qui ont lancé la série Universal Monsters, mine de rien. Et dans
oui,
tout...
alors, on l'a pas dit, mais le monstre de l'opéra est très très moche. Oui, c'est pour ça qu'il porte un masque.
Oh non.
Et c'est une caricature de méchant, c'est-à-dire qu'il est dans sa cave, il fait de la magie noire, il a des pièges dans sa cave, et il joue de l'orgue. C'est un méchant masqué qui joue de l'orgue avec une grande cape, voilà.
Ah non, mais autant je pouvais avoir de l'empathie pour lui quand il portait le masque, autant quand il l'a enlevé, enfin quand Christine le lui a retiré. J'étais bonne pour des cauchemars pendant une semaine, franchement.
Il paraît qu'ils avaient pris des selles pour les spectateurs tellement il était moche pour la scène du masque.
Oh non, mais la révélation, autant après on prend un petit peu l'habitude, mais la révélation, je m'attendais absolument pas à ça. Franchement, c'est la belle et la bête, hein.
Bon, donc ça marche encore. Donc, Ellie, tu nous disais les Universal Monsters.
Ouais, c'est toute la série de monstres qui a amené, de films de monstres qui a amené Frankenstein, Dracula, l'homme invisible, la momie, dans les années courant 20, enfin fin 20, début 30 surtout. Et le fantôme de l'opéra, du coup, il a l'air d'être, enfin, il correspond parfaitement à toutes les cases, en fait, de ce qui va suivre. Genre, il a l'air de poser pas mal de jalons, à savoir la reprise des codes expressionnistes avec tout un jeu d'ombre, parce que 4 ans avant, il y a le docteur Caligari de Robert Wien, qui est aussi sur Arte d'ailleurs, et donc qui a posé toutes les bases d'un cinéma d'horreur contemporain pour l'époque, on va dire, et le fait d'avoir des décors monstrueux, en fait. Et ça, c'est un truc qu'on retrouve dans tous leurs films, ils ont des décors, tous, je sais même pas, enfin, la thune qu'ils devaient dépenser, ça devait être mais colossal, parce que...
C'est des dingueries,
hein. Il y a des tours de fous, elles font genre 4 mètres de haut, c'est tout...
Non, mais rien que la scène du lustre, je me suis dit, mais le lustre, c'est hallucinant, quoi. Et c'est super bien fait parce que c'est réaliste dans un sens, parce qu'il y a des gens qui sont coincés en dessous et tu les vois essayer de sortir. C'est incroyable. Le lustre, il est gigantesque. J'étais là, mais d'où est-ce qu'ils ont ramené ce lustre, quoi? C'est incroyable.
C'est surtout, c'est les détails. En fait, ils ont vraiment recréé l'opéra, du coup, à l'extérieur, comme on le voit au début, et à l'intérieur. Et en fait, la salle, je sais pas si... après, moi, j'y suis déjà allée, mais je sais pas si vous avez déjà vu des photos de la vraie salle de l'opéra de Paris, mais c'est vraiment la même chose. Même le lustre, tout est vraiment reconstitution, mais à fond. Et c'est ça qui est génial, c'est parce que il y avait vraiment un vrai travail sur les décors. Et comme tu disais tout à l'heure, il y a vraiment tout a un sens, en fait. Et les décors, s'ils sont là, forcément il va y avoir quelque chose qui va se passer. Donc c'est vraiment super, et il y a vraiment un gros travail. Et je pense que c'est un peu ça aussi qu'on a perdu maintenant avec tous les effets numériques, etc. Et c'est dommage.
Oui, ça s'est démocratisé, du coup. C'est la consommation, que ce soit de notre côté en tant que spectateur ou que ce soit du côté des producteurs et des réalisateurs qui consomment justement leurs matériaux aussi.
Le fantôme de l'opéra, un grand classique à redécouvrir. Bon, le fantôme de l'opéra, c'était l'histoire d'un intrus qui venait s'immiscer dans le ballet et foutre le bordel. Ben là, on va avoir l'histoire d'un intrus qui s'immisce dans un village.
Man, take a good look at him. He's a specialist. He knows exactly how to turn this quiet town into a hell of violence.
The Negroes will literally, and I do mean literally, control the South. Are you willing to fight down to the last ditch and keep fighting till this thing is over?
The intruder. He made the sleepy town of Caxton his town for his reason. He played on their fears and their hatreds. This town became a headline for The Intruder.
The Intruder. de 1962. Alors, ne pas confondre avec The Intruder de 2019, ou celui de 2004, ou celui de 2010, ou vous plaire en fait, parce que si vous amusez à taper The Intruder entre les versions The Intruder ou The Intruders dans n'importe quel moteur de recherche de film, vous allez avoir une belle liste. Ici, on parle du film de Roger Corman de 1962. Également connu sous d'autres noms, parce que c'est un film qui n'a pas eu un gros succès commercial, donc il a essayé de le revendre sous quelques noms différents pour le vendre. I Hate Your Guts, ou bien encore Shame. L'histoire d'Adam Kramer, le beau parleur, qui vient dans le petit village fictif de Caxton, dans un état du sud des États-Unis, pour éveiller un sentiment de défiance, pour appeler à la désobéissance civile, et éveiller les sentiments de racisme de ce village pour protester contre la déségrégation et donc l'intégration d'élèves noirs dans une classe de lycée, me semble-t-il. Enfin, à l'école en tout cas. À noter également que Adam Kramer est incarné par un jeune acteur, à l'époque William Shatner, que vous connaissez peut-être plus facilement dans son rôle de Captain Kirk.
Ça fait trop bizarre de le voir en méchant.
Alors, les enfants, The Intruder. Est-ce que vous avez laissé entrer dans votre petit cœur de cinéphile ce film ?
C'était tellement incroyable ce truc.
Je suis d'accord.
Je m'attendais tellement pas à ça en fait. Après, Corman, je connais pas tant que ça en tant que réal. Je connais plus son travail de producteur et la manière dont il a lancé des gens. C'est un gars qui a lancé Joe Dante, c'est un gars qui a lancé tellement de monde. Et Corman, c'est un gars qu'on associe au cinéma des années 60. Il faut savoir qu'il a 93 ans, qu'il a encore envie, qu'il produit plein de trucs, qu'il écrit plein de scénarios, qu'il les refile à tout le monde. Il demande à pas être crédité, mais ce mec-là, visiblement, est responsable d'une centaine de films encore, enfin, qui sortent encore à l'heure actuelle. Et ce qui est merveilleux, c'est que ce mec, il est connu pour être le réalisateur à 3 francs 6 sous. C'est pour ça que quand il a réalisé, le mec, il te plombait de la péloche, il sortait 40 000 films tout le temps, à chaque fois dans des registres différents. Et avec que dalle de budget, et il pliait ça en une semaine, et il passait à autre chose.
Son record, c'était avec La Petite Boutique des Horreurs, version 1960, tournée en 2 jours et 1 nuit.
Non mais c'est ça. Non, mais Corman, il est incroyable pour ça. Mais je pense que c'est un gars, si t'as aujourd'hui des gars même comme Scorsese qui lui diraient « Ah, j'ai galéré, j'ai dû aller chez des pour avoir du budget », il te rie à la gueule. Hein. Parce que le gars, toute sa carrière, ça a été ça.
Ah, bah, alors, faut voir, il a produit plus de 400 films. Crédité en tout cas, faut voir ce qu'il a produit, ça fait un peu peur quand même.
Ouais, mais c'est toujours plutôt intéressant en fait. Quoi qu'il arrive, il produit plein de films de monstres dégueulasses, il en réalise plein aussi.
Oui.
Mais c'est tout le temps audacieux et plein de tentatives. Et celui-là, je m'attendais vraiment pas à voir ça, quoi. Tu vois, quand il y a t'as cette espèce de petit village, t'as toute cette espèce de petit monde qui vit autour de ce gars, t'as Shatner qui arrive et qui, dès le début, dit à la nana du motel dans lequel il va être. Qu'est-ce que vous pensez du fait qu'il y ait des noirs qui maintenant vont aller à l'école et la nana, enfin, qui vont aller à l'école, pardon. Et la nana lui répond, je suis pas d'accord, mais c'est la loi. Il la regarde, il fait, vous avez tort, madame. Et je me suis dit, ah non, c'est un gars qui vient aider, qui va faire en sorte que. Et puis, quand il a commencé à faire ses discours galvanisants, où il a commencé à retourner la foule, à la foutre en colère, à relancer le caca et tout, je me suis dit, putain, c'est quoi ce truc?
Tu dis film fauché, c'est un film qui, quand ils ont fait le budget, quand ils ont prévu le budget, ils se sont dit on aura besoin de 500 000 dollars. Bon, ils l'ont fait avec moins de 100 000. C'est entre 80 et 90 000.
Voilà, Corman.
C'est un film qui a eu beaucoup de mal parce que c'est un film très politique, tu l'as dit. On a William Shatner qui vient réveiller les instincts racistes un peu. C'est justement pour protester contre ce racisme ambiant et les mecs qui utilisent ça.
C'est politique. Je vais finir avec une dernière anecdote et comme ça on peut se lancer sur le film. Ce qui est encore plus dingue, c'est qu'il est allé le tourner dans le Missouri 6 ans après le moment où ils ont lancé la loi en fait pour autoriser les Noirs à aller à l'école. Et le Missouri, c'est l'état le plus réfractaire à cette loi. C'est-à-dire c'est ceux qui l'ont vraiment mis en application le plus tard. C'est ceux qui, jusqu'au milieu des années 70, ont continué à lyncher les Noirs, alors en foutre plein la gueule. Et le mec, il est allé tourner là-bas avec un faux scénario en fait. Et c'est au moment où il a donné le vrai scénario à ses acteurs quand ils devaient tourner, à part Shatner qui lui était déjà, et les acteurs principaux qui étaient tous d'accord, les figurants n'étaient pas au courant, les villageois n'étaient pas au courant. Du coup, les mecs, ils ont dû dormir dans la rue parce que les gens leur ont fermé les hôtels. Enfin, c'est ce tournage de la mort.
Exactement, et c'est un film qui a eu beaucoup de mal à être distribué aussi. Pathé l'a distribué à New York, finalement ils ont réussi à avoir un deal avec Pathé qui l'a distribué à New York, mais qui s'est retiré ensuite du projet, et donc ce sont les frères Corman qui ont dû, de leur poche, distribuer le film. Et c'est un film qui a eu des échecs commerciaux, c'est pour ça que le film a plusieurs noms, c'est qu'ils ont tenté de le renommer, de le ressortir sous un nom différent, histoire de rentrer dans leurs frais.
Et pourtant c'est un film qui gagne à être vu, vraiment.
Eh bien, le film, parlons-en justement, tiens.
Oui.
qui veut ouvrir la parole là-dessus? Sinon, on peut continuer à balancer des anecdotes. Hein, parce que,
il y en a tellement, en plus.
Il y en a tellement, parce que ne serait-ce que pour William Shatner, par exemple, bon, c'est le capitaine Kirk, vous le savez, hein, je n'ai même pas le besoin de le préciser. Et on sait aussi que c'est l'acteur.
C'est Hooker aussi.
Et c'est aussi Hooker. Mais dans Star Trek qui est notamment connu bon, pour plein de choses, pour ses idées de progressisme et autres, et notamment pour ce qui est considéré assez souvent, cité, bon, après, il y a débat, mais le premier, ou un des premiers au moins, baiser interracial à la télévision américaine. Mmh. Avec William Shatner, justement, qui roule une galoche au lieutenant Uhura.
Ah, de toute façon, Star Trek, c'est pareil, hein, c'était un énorme truc de combat. Hein. Les mecs ont bataillé, ils ont énormément bouleversé les mentalités avec cette série. Elle est importante pour ça aussi, quoi. Et donc, c'est pas étonnant de le voir sur ce genre de projet, quoi.
Alors, justement, ce film, parlons-en. Tiens, Laura, tiens, voilà. Tu es dans le fond, tu ne dis pas grand-chose. Voilà, je te vise du doigt. Au tableau,
non,
élève Laura
en fait,
au tableau.
Je sais pas trop quoi dire parce que je me suis pris une claque. Du coup, je l'ai vu il y a 2 jours. Et je m'en suis pas encore remise. Donc c'est un peu compliqué à en parler parce que je le trouve hyper percutant, hyper fort. Et surtout, la scène de fin, enfin toute la séquence de fin, moi, c'était sur le cul, en fait. Et du coup, là, j'arrive pas trop à trouver mes mots encore pour en parler. Donc je sais pas si quelqu'un veut renchérir, mais moi, en tout cas, moi, ça a vraiment été une super surprise et je suis contente de l'avoir découverte.
Mais c'est normal que ça te file une claque, le film fait, enfin, il fait quoi? Il fait 1h20. Et c'est ouais. Ça, quoi. En 1h20, le mec, il te balance un truc. Et pourtant, il n'y a aucun moment où t'as l'impression que c'est bâclé. Donc c'est normal, tu te prends un truc supersonique dans la gueule qui, en plus, te brasse tellement de thèmes et est tellement bien écrit de bout en bout, quoi.
Ah, mais c'est très fort. Alors, on sent de temps en temps, on sent pas que ça a été bâclé, mais on sent qu'il n'y a pas eu des masses de budget, que des fois, il a fallu faire comme on pouvait. Notamment, je pense, il y a une transition intéressante. Il y a un plan sur le visage de Shatner. Hop, changement, on le voit de près, puis ensuite, on le voit, on le filme de loin pendant qu'il fait son discours. Donc, il y a un changement violent de point, parce qu'il y a eu un super, super, super zoom. L'image commence, elle est très zoomée, puis elle dézoome en arrière. Elle essaye de se restabiliser aussi. Tu sens qu'il n'y a pas eu 36 000 prises. Et donc, comme il a été filmé de loin et que c'était très zoomé, il y a un grain qui est très, très large. Enfin, donc on sent que ça a été fait très, très vite avec le matos qu'ils avaient à ce moment-là. Donc, tu sens que techniquement, ils ont fait avec les moyens du bord et ça rajoute à la performance du film.
Non, en plus, il y a une tension tout le long. C'est pour ça qu'en fait, on se sent tendu parce que en fait on sait pas du tout ce qui va se passer parce que vu que le personnage, j'ai oublié son nom, en fait commence à rameuter une foule et en fait après il y a un gros mouvement de foule, on sait pas du tout ce qui va se passer et on est en tension. C'est pour ça que j'ai adoré la scène de fin, parce qu'en fait on sent qu'à tout moment ça peut basculer et que le mouvement de foule qui se crée peut partir en furie comme on a pu voir ce qui se passe encore parfois aux États-Unis. Et en fait, c'est cette tension qui moi m'a vraiment choquée parce qu'elle est très actuelle et on parle quand même d'un film qui a été fait en 62 et je trouve que le film peut encore se voir maintenant même s'il a pas eu, enfin il a eu très peu de moyens et du coup qui est quand même qu'il est vieux, mais je trouve qu'il résonne encore avec ce qui peut se passer aujourd'hui. Et en soi, c'est vraiment un film qui, je pense, qui devrait être redécouvert et retransmis avec des sorties DVD, Blu-ray, parce que je trouve que c'est un film qu'on devrait voir surtout en ce moment.
Exactement, il est très très actuel parce qu'il fait penser aux méthodes des partis populistes. Mmh. Ces partis ne sont pas racistes, je ne veux pas de procès, je ne le dis pas, voilà. Mais je dis que ça ressemble beaucoup aux méthodes de partis populistes qui veulent s'acheter une bonne conduite, une belle image. Je pense notamment au documentaire La Cravate qui était passé sur les écrans au cinéma. Pareil, où on suivait un militant du Rassemblement National. Et en fait, il montrait que c'est ce jeune homme-là, ce personnage Adam Kramer, un personnage propre sur lui, beau parleur, qui sait justement éveiller les bas instincts des foules, un peu les peurs de ses interlocuteurs, et qui va jouer de la politique. Et justement, là, il va faire bouger les foules, il va les chauffer un peu. Mais pour sa bonne image, il va rejeter dès qu'il y a une violence en marge. Parce que, en fait, ce qui se passe, c'est à force de chauffer les gens du coin, les gens vont lyncher les noirs, ils vont bousculer les familles, des pauvres mecs qui veulent rentrer chez eux. Enfin, il y a des violences en marge. Il dit, ah ben non, c'est pas moi, je suis pas pour ça. Et donc, il y a toute une stratégie d'un côté attiser les peurs et les haines, et de l'autre avoir une bonne conduite et être propre sur soi et être bien présentable. C'est ce discours fait pour lutter contre la diabolisation, entre guillemets.
C'est un personnage insidieux, c'est-à-dire qu'il a une belle gueule, il présente bien. Et derrière, il va avoir des propos, il va poser des questions, il va remettre les convictions et les idéaux des gens en question de manière très subtile, très insidieuse, qui est présentée de manière qui a l'air totalement logique quand il pose la question et qui demande à plusieurs personnages, est-ce que vous êtes d'accord que des Noirs aillent à l'école?
Oui, mais c'est la loi.
Et que oui, voilà, les gens répondent non, je ne suis pas d'accord, mais c'est la loi. Lui, il répond, la loi de qui?
Et voilà.
Il leur répond ça. Il leur dit, c'est la loi de qui? C'est-à-dire que, tout doucement, il commence à instiller un petit peu cette idée de d'accord, c'est la loi, mais c'est la loi qui vient d'en haut, qui vient du nord. En plus, lui, il vient de Washington,
alors,
donc
non,
c'est un
alors,
northerner.
Le truc, c'est qu'il dit, il rencontre plusieurs interlocuteurs, il dit jamais la même provenance. Un coup, il dit Los Angeles, un coup, il dit je sais plus trop quoi, un coup, il dit Washington.
Oui, oui, c'est vrai.
C'est un menteur, c'est le mec ment mais... du début à la fin, quoi.
Mais quand tu regardes Los Angeles, quand tu regardes Washington, des choses comme ça... Ça reste des États où justement la déségrégation a eu un peu plus d'avance, ce qui fait que justement il se pose en personne qui arrive de ces contrées-là. Et je sais pas si vous remarquez, mais il parle avec l'accent du Sud dès qu'il débarque. C'est-à-dire que le gars, on sait qu'il vient de New York, enfin de Washington ou de Los Angeles, ce qu'on veut.
On n'en sait rien.
Mais le gars, il a un accent du Sud comme ceux du patelin, quoi. Et du coup, de ce qui est présenté justement dans cette angoisse permanente dans laquelle on est plongé, je trouve que ça retranscrit aussi également l'angoisse dans laquelle vivaient les Noirs à l'époque. C'est-à-dire que il y a une scène où justement il y a un mouvement de foule après le discours d'Adam Kramer, où les gens vont aller molester une famille qui est dans sa voiture et qui ne fait que passer par là parce que ben c'est leur droit de passer par là, c'est la loi. Et c'est très très tendu. Il provoque le père de famille. On s'attend vraiment à ce que ce soit un lynchage, tout comme la scène de fin. Et il y a cette tension, justement, on est investi dedans et on arrive... Enfin, pour ma part, moi, j'arrivais pas à en sortir. J'étais là, mais mon Dieu, qu'est-ce qui va leur arriver, quoi. J'étais là, mais arrêtez. Et tous ces moments d'angoisse sont quand même contrebalancés par un autre personnage dont on n'a pas encore parlé, qui est Sam Griffin, qui est un commercial qu'Adam Kramer rencontre dans l'hôtel où il séjourne. Et... il y a une histoire qui se crée avec la femme de Sam Griffin qui, voilà, qu'Adam Kramer va séduire,
oui.
Etc. Puis
Kramer est assez amoral, puis il séduit un peu tout ce qui bouge sans regarder l'âge.
Voilà.
Hein.
Exactement. Et du coup, Sam Griffin, mais c'est mon héros!
Tellement.
C'est mon héros, ce gars, mais à chaque fois, mais dès qu'on rentre dans l'intrigue et que Sam Griffin confronte Adam Kramer, je suis là, mais c'est tellement jouissif. Ce qu'il lui dit, les dialogues sont aux petits oignons, c'est incroyable. Il le remet à sa place, il le met face à sa lâcheté, quand même, de but en blanc, c'est brut. Il y a aucune couverture, il y a pas de voile, il y a rien du tout.
Et non, mais aussi, voilà, puis il y a des symboles aussi, car dans ceux qui s'opposent, bon, il y a le commerçant, parce qu'il y a le commercial, parce qu'on est en Amérique et que bon, on déconne pas, le commerce, c'est quand même une des valeurs, mais il y a aussi la figure du journaliste aussi qui s'oppose à ça, qui remet en question, mais qui se fait lyncher aussi par la foule, parce que c'est un mouvement populiste.
Mais ce qui est merveilleux, c'est vraiment au niveau de l'écriture des personnages, en fait, et c'est la manière dont on joue avec les faux-semblants. Et Sam Griffin, c'est parfait que t'en parles, j'allais y venir, parce que c'est l'exacte antithèse de Kramer. Kramer, on te le vend comme le gars, ouais, ah, il est magnifique, il est beau parleur, il est bien sur lui, et finalement, tu t'aperçois que le mec, mais c'est un putain de démon qui te susurre des saloperies à l'oreille pour te faire craquer. Et Griffin, la première fois que tu le vois, il est en train, enfin, tu sais pas s'il se dispute, s'il est violent, s'il est en train de faire le gros beauf avec sa femme. Le mec, il est là, il méprise un petit peu tout ça. Et ouais, il apparaît comme un gros beauf, en fait. Et tu te dis, ouais, bon, ce mec-là, ça va être le copain qui va faire des blagues. Et le fait que ce soit lui, en fait, qu'on te montre en étendard, c'est une façon aussi de te dire, bah, tu vois, t'as pas gratté derrière la couche du gars, tu t'es juste dit, voilà comment il est. Mmh. Et en réalité, derrière, t'as un mec hyper intelligent qui avait tout compris et qui a réussi à être beaucoup plus malin que l'autre, en fait. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que les personnages sont vraiment très complets dans toute leur dans toute leur complexité, dans tout leur cheminement, en fait. Sans avoir trop d'évolution, de désévolution,
ils ont un chemin qui est très logique. Et ça, c'est super.
Ça montre justement aussi que les choses peuvent changer grâce aux petites gens, quoi, c'est-à-dire aux gens auxquels on prête pas attention. Quand Sam Griffin, justement, arrive à ce genre d'acte, pour ne pas spoiler, on pourrait penser justement que cette foule qui est rassemblée devant l'élève pourrait continuer et se dire « Non, non, mais on s'en fout. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de le lyncher, c'est de l'emmener en prison pour ce qu'il a fait, etc. » Et finalement, on se rend compte qu'un discours bien préparé et qui va dans le bon sens, contrairement à celui d'Adam Kramer, eh ben, a tout autant de valeur, tout autant de poids, justement, et qui peut changer là aussi la mentalité des foules. C'est aussi ça que j'ai beaucoup aimé dans ce film.
Hera, tu l'as vu ?
Oui.
Ah, Hera, bon, t'as pas trop entendu dessus, je crois ?
Non, mais parce que j'ai rien à dire dessus, en fait.
Ouais.
C'est un très bon film, il y a tout qui est nickel, et du coup, j'ai rien à dire. C'est terrible quand ça fait cet effet-là, mais ça m'a pas... Après, ça, j'ai pas été transcendée comme vous, aussi parce que c'est un sujet que j'ai toujours beaucoup de mal à voir. C'est le genre de truc où ça me met dans un état où je suis pas bien devant l'écran juste parce que j'entends quelqu'un dire des termes que je peux pas entendre, même pour l'époque et même par rapport au sujet. J'ai beaucoup de mal à prendre de la distance. Donc c'est un peu ce genre de film, un peu comme Django Unchained ou autre, où j'ai vraiment du mal à rester sereine en étant devant. Donc je prends toujours beaucoup de distance, ce qui fait que je ne rentre pas dedans, donc j'ai rien à en dire quand j'en voilà.
Je peux juste rajouter un truc. Non, je voulais juste dire, tu l'avais dit tout à l'heure en passant, le titre original c'est I Hate Your Guts, et je trouve que c'est vachement plus violent et ça transmet beaucoup plus ce dont le film va parler que The Intruder.
Oui, moi au début je croyais que c'était un truc d'espionnage, oui.
Mais voilà, ça reste assez soft, et là en fait I Hate Your Guts, quand le titre s'affiche devant l'écran, et quand on sait ce qui se passe derrière, ça prend tout son sens, quoi. C'est beaucoup plus violent.
Bien, The Intruder, un film très populaire chez nous.
Oh oui.
Même si nous ne sommes pas populistes. Alors, je vous ai pas dit, alors j'aurais dû dire ça peut-être au reste de l'équipe qui n'ont pas pu venir, que Roger Corman avait également produit Fast and Furious. The Fast and the Furious, bon, c'est la version de 1954, d'accord, mais ça compte quand même. Il n'y avait pas Vin Diesel, désolé.
La voiture, elle est déjà dans l'espace à l'époque, hein.
C'est ça. Merci à vous d'avoir participé à l'expérience Arte. C'était notre petite sélection de films. Mais ce n'est pas tout, parce que bon, des fois on n'a pas la place de parler de tout. C'est l'heure maintenant des recos. Chacun, vous aviez un petit devoir de la semaine. Trouver une petite pépite, choisir, parce qu'il y en a beaucoup, on ne pourra pas tout dire. Donc une pépite sur Arte à voir. Et elle est vite fait, mais pas plus d'une minute s'il y a un truc à voir ailleurs. Qui commence ?
Sur Arte, il y a Down by Law de Jim Jarmusch. Voilà, c'est tout. Voyez-le, c'est vachement bien, c'est les débuts. Ça reprend un peu toute l'essence de Jarmusch en termes de force symbolique et de poésie. Donc, il est là jusqu'au 5 avril sur Arte. Allez-y.
Dépêchez-vous. Laura, une reco ?
Alors moi, c'est pas un film, parce qu'en fait, il y a une section sur Arte qui s'appelle Les Grands du 7e art. Et dans cette section, il y a une leçon de cinéma de Agnès Varda. Donc en fait, c'est une masterclass filmée qu'elle avait fait à la Cinémathèque en 2018. Et je vous le conseille parce que c'est très intéressant.
Effectivement, grand oui aussi.
Alors tant qu'on parle de la Cinémathèque et des docs sur les grandes du cinéma, j'en profite pour faire ma reco. Voilà, je court-circuite un peu. J'en profite parce qu'à la Cinémathèque, là, normalement, début avril, devait s'ouvrir une expo Louis de Funès. Donc moi, j'avais très envie de la voir, cette expo, mine de rien. Et bon, confinement oblige, c'est fermé, il va falloir attendre. Alors en attendant, il y a un doc sur Arte, Monsieur de Funès. Voilà, c'est dispo encore très 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 longtemps. Profitez-en, jusqu'en septembre me semble-t-il. Donc c'est un doc sur Louis de Funès. Qu'est-ce qui a fait son succès, avec des analyses, des extraits de films ou autres, hein. On interviewe un peu, on voit son influence à travers le monde et on interviewe des journalistes autour. Louis de Funès, c'est quand même un mec qui a fait 160 millions d'entrées, mine de rien. En France, avec ses films.
Est-ce qu'il a eu un César du public ?
Ah, je sais. Non, mais non. C'est pas Danny Boone, il a pas pu faire pression sur l'Académie, désolé. Et donc, il y a des interviews, il y a notamment dans les interviews, il y a Alexandre Astier, Jamel Debbouze, Guillaume Gallienne, Claude Zidi, Mylène de Mongeau, Pascal Thomas également, Nakache Toledano, Dominique Besnéard, Daniel Thompson, qui parlent un peu de Funès, ainsi que des biographes aussi. Ça dure 82 minutes, ouais, 1h20. C'est très complet. Moi, j'ai appris beaucoup de choses sur De Funès aussi. Et puis, j'ai des choses que je savais aussi, que j'avais découvert. Donc, c'est très plaisant. En attendant que l'expo ouvre, ça peut faire patienter.
Eh ben, je suis déjà en train de le chercher, comme ça, dès l'instant qu'on arrête l'émission, je le regarde.
Il y a ça ?
Oui, alors moi, ce que je vais recommander, c'est pas du cinéma. C'est une série de mini-documentaires qui durent entre 3 et 5 minutes, c'est des petites vidéos, qui s'appellent Data Science versus Fake. Et en fait, c'est une série de petits films d'animation qui utilisent les data, les données qu'on voit tous les jours, et en fait, qui nous les montrent en animation, mais de manière brute, c'est-à-dire que ce qu'elles représentent réellement, et du coup, on va retrouver, par exemple, ben la dernière en date, c'est sur le Covid-19. Sinon, il y en a plein d'autres, comme par exemple, Internet ne pollue pas, ou... j'en avais vu une, l'homme descend du singe, enfin il y en a plusieurs comme ça. On arrive à quantifier tous ces chiffres dont on est abreuvé tous les jours et qu'on n'arrive pas vraiment à démêler. Et c'est un très bon moyen justement de se rendre compte de ce qui est vrai et de ce qui est faux. C'est en partenariat, je crois, avec l'INSERM, si je dis pas de bêtises, et le Centre de Culture Scientifique Technique et Industrielle en France. Donc voilà, ça prend pas beaucoup de temps et on en apprend beaucoup en même temps. Voilà.
Nickel. Thierry ?
Alors moi j'en ai deux, mais une dans laquelle je vais aller très brièvement parce que elle n'est plus disponible malheureusement. Mais bon, après si vous voulez vous amuser à le trouver, allez-y. J'ai regardé Butch Cassidy and the Sundance Kid, qui était voilà un western avec Paul Newman, avec Catherine Ross et Robert Redford. C'est de George Roy Hill, je crois que c'est années 60, et c'était vachement bien. Mais c'est un western qui est pas non plus trop ancré dans le western très classique en fait, et qui mêle plein de trucs modernes où t'as des braqueurs de banque qui décident de s'enfuir en Bolivie parce que justement ils sont totalement niqués aux États-Unis quoi. Et c'est super fun. Voilà, c'est des gars qui essaient de maintenir leur train de vie et de maintenir le fait qu'ils veulent être des gangsters à l'étranger parce que c'est tout ce qu'ils savent faire, mais qui n'arrivent plus du tout à le faire. Et c'est très marrant et à la fois très touchant, très prenant. C'est un très bon western. Et le deuxième, donc, qui lui est toujours disponible, je n'ai pas vérifié pour combien de temps, on en a parlé tout à l'heure pendant Le Fantôme de l'Opéra, c'est Le Cabinet du Docteur Caligari de Monsieur Robert Wien. Et il faut absolument voir ça, c'est de l'expressionnisme allemand. C'est fou. On parlait de décors. Voilà, vous voulez voir un film sur les décors, c'est parfait, quoi.
Et la question que tout le monde se pose, Eli pourra-t-il se contenter d'une seule reco ?
Bah Thierry m'a volé la mienne, donc j'ai un peu le seum. Parce que du coup, Caligari, voilà quoi, je voulais en parler, mais très très bien. Non, bah du coup, sur Arte, il y a Plan 9 from Outer Space de Ed Wood. Et
mais tu peux pas faire ça.
Mais si.
Il y a plusieurs films d'Ed Wood, oui, sur la plateforme.
Il y a plusieurs films d'Ed Wood, il y a beaucoup de films Z, et franchement... Enfin, c'est parfait pour passer le confinement, quoi. Quand on aime le cinéma et rigoler un peu d'un film, pour le film et avec le film, c'est idéal. Et voilà, c'est débile, mais c'est complètement raté, mais c'est super jouissif à regarder parce qu'on voit tout ce qui va pas dans un film. C'est très enrichissant. Et je m'arrête là.
Bravo, je suis impressionné. Bon, alors voilà, je me permets, je triche un peu parce qu'on en a pas parlé. Il y a aussi plein de courts-métrages aussi sur Arte. Profitez-en, si vous aimez les courts-métrages, c'est une source vers laquelle vous pouvez vous tourner. Et j'en profite aussi, vous qui aimez les films de patrimoine, Carlotta a sorti son vidéoclub, son site de
oui
vidéos en demande. Donc pour l'instant, il n'y a pas d'offre d'essai gratuite, donc on va attendre un peu avant de la faire, puis on va attendre que le catalogue s'étoffe un peu, parce que pour l'instant, il n'y a pas encore... Ben, il y a quelques films pour l'instant, mais ça va grossir.
Il y a du lourd quand même.
Il y a quand même du très lourd. Hein. Ouais, non, il y a quand même du lourd. Mais on va attendre que ça s'étoffe un peu avant d'en parler. Mais...
Il y en aura 50 dans deux semaines, je crois. Ouais.
Voilà, mais là, il y en a une trentaine, ce qui est quand même déjà pas mal. Il y a aussi des docs. Il y a de quoi faire aussi.
Pour le premier mois, c'est que 2,50, enfin 2,50€.
Oui, voilà.
C'est quand même sympa, il n'y a pas d'offre gratuite, mais ça compense plutôt pas mal, quoi.
C'est les recos, c'est aussi l'heure de l'auto-reco, l'auto-promo. Laura, quel est ton actu actuellement ?
Du coup, moi, vous pouvez me retrouver sur le podcast Sorociné. Et du coup, là, pendant la période du confinement, on essaye aussi d'enregistrer des petits épisodes. Donc là, il y a l'épisode qui est sorti dimanche des femmes dans l'espace. Que du coup, je vous invite à aller écouter. Et bientôt.
Donc c'est le dimanche de la semaine dernière, au moment où ça sort. Donc voilà.
Voilà, le dimanche de la semaine dernière. Et sinon, après, là, on a déjà enregistré quelques épisodes. Donc voilà, il faudra vous connecter, voir ce qu'on va sortir.
On va vous révéler les coulisses. Là, tu sors d'un enregistrement de Sorociné. Pour rejoindre l'enregistrement de certains LMA Show, vous enregistrez sur quoi aujourd'hui ?
Du coup, là, aujourd'hui, de toute façon, je pense que quand l'épisode va sortir, là, de Au Show, il va sortir aussi. On a fait un épisode bonus sur les séries où on a parlé de Euphoria aujourd'hui.
D'accord. Et c'est prévu pour sortir ?
Normalement, ce week-end. Enfin, là, le week-end, là, au moment où on enregistre, donc là, maintenant, tout de suite, quoi.
Bon, ben, on va attendre ça avec impatience. On l'écoutera après cet épisode de Au Show. J'y tiens. écoutez-les en même temps, allez-y, vous ouvrez plusieurs plateformes de podcasts en même temps, puis vous les écoutez en même temps, voilà. Pour rattraper tout ce temps que vous ne passez pas dans les transports, un dans chaque oreille de l'écouteur, un à gauche, un à droite. Merci Laura.
Bah merci à vous, c'était sympa.
Et on te retrouvera donc dans Sorociné. Merci Hera également.
Merci à tous.
Merci Yassa.
Merci Thomas.
Merci Ellie.
Merci.
Merci à toi Thierry qui a bravé la maladie pour rejoindre l'émission.
Ouais, merci.
Et merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Vous pouvez retrouver cette émission ainsi que toutes les précédentes sur votre application de podcast préférée. Commentez également cet épisode sur les réseaux sociaux ou sur iTunes. Ça nous apporte de la visibilité, ça nous fait plaisir. D'ailleurs, je salue Claude aussi qui nous a envoyé un commentaire sur iTunes. Voilà, salut. Enfin, sur Apple Podcast. Merci à toi. Retrouvez-nous également sur les réseaux sociaux Twitter, Facebook, Instagram à Clac Podcast, C-L-A-A-C Podcast. À la semaine prochaine. Bisous, bisous, bisous.
Bisous.
Bisous. Bisous.
À la semaine prochaine pour une autre application de vidéo qu'on n'a pas encore déterminée, mais que ça ne saurait tarder. Mais je vais meubler. Oui, Pornhub, Thierry, oui. J'ai encore le sample, Thierry, ne joue pas. Je peux sortir le sample.
C'est pas moi, c'est Hera qui a voté en premier. C'est Hera qui a voté en premier pour Pornhub, c'est pas moi.
Oui, t'as voté derrière.
Vous m'avez donné la possibilité. Évidemment que je l'ai fait.
Bon, en gros, je vais vous avouer, là, pour l'instant, on est en train de voter, ça se joue entre Pornhub et Mubi. Voilà.
Du coup, on hésite.
Il y a des films de patrimoine dans les deux cas.
C'est pas le même positionnement, c'est tout. Hein. C'est une histoire
exactement,
de marketing.
C'est une question de positionnement. Ouais. Tout est une question de position, Hera. Très bien.
Ah, plus, c'est beau de la fin. Une plateforme, vous faites que 4 films. L'autre, on peut en faire 40.
Seulement 40, on peut en faire autant qu'on veut. Ouais, ouais. Non, puis en plus, il va y avoir de l'audace dans le mouvement de caméra aussi.
La partie Rocco sera incroyable. Hein.
Oui, je veux dire, non, mais c'est pas pour dire, mais les acteurs s'impliquent un peu plus quand même. Hein. Voilà. Bien.
Et l'avantage de Pornhub, c'est quand même, c'est très très ouvert d'esprit. Quoi.
Oui, c'est ouvert.
Et pas que.
C'est ouvert tout court. C'est ouvert tout court.
Votez pour Mubi, je vous en supplie. J'ai une crise de panique déjà rien que l'idée que ça parte en rire.
Bon, on coupe l'audio, c'est bon.
Ouais, je crois que c'est bon, on peut couper l'audio.
Cool.
Sinon, on peut avoir des sons de Thierry qui tousse en fond, le pauvre. On va l'épargner.